portrait de prof. Les enseignants du collège Jacques Prévert prennent la parole sur Radio Prévert 105.9. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Prévert 105.9 à Chalon et on va parler enseignement et choix de carrière aujourd'hui. Depuis 1994 se tient chaque 5 octobre la journée mondiale des enseignants. Fondée par l'UNESCO, elle vise à sensibiliser le rôle des professeurs dans le système éducatif. Et à cette occasion, on va recueillir les témoignages dans cette série de portraits de plusieurs professeurs du collège Jacques Prévert de Chalon qui vont revenir à tour de rôle sur leur motivation à devenir enseignant. Et je reçois tout de suite Marie-Christine Bidot. Donc Marie-Christine, tu es enseignante en éducation musicale, en musique, concrètement au collège Jacques Prévert. Est-ce que tu peux d'abord nous dire pourquoi avoir choisi cette discipline ?
Alors, cette discipline, c'est venu tout naturellement parce que quand j'étais petite, je suis allée au conservatoire, j'ai appris à jouer le piano, ça m'a plu, j'ai continué et puis j'ai donc poursuivi des études de musicologie en fac après le bac, de façon à peut-être pas forcément à être prof quand je suis rentrée en fac, mais du moins à continuer à faire ce qui me plaisait, tout simplement.
D'accord. Et justement, qu'est-ce qui te plaît dans la musique, concrètement ?
Tout. J'aime bien écouter la musique, j'aimais bien jouer du piano, j'aime toujours, mais enfin bon, maintenant j'ai tellement davantage l'habitude que c'est devenu une seconde nature. Et en fait, voilà, j'aime ça, tout simplement.
Comment on passe, en quelque sorte, de la musique au métier d'enseignant ? Est-ce que c'est une vocation d'enseigner dès ton enfance, par exemple ?
Non, dès mon enfance, non. Comme je suis déjà âgée, j'ai eu la chance de vivre une période insouciante où on trouvait du travail très très facilement, ou même quand on avait un bac général, on trouvait du travail. Donc, je ne m'étais pas tellement posée avant 18-19 ans la question de savoir ce que j'allais faire. C'est pas que ça m'était égal, je savais ce que j'aurais pas aimé faire, ça c'est sûr, mais non, c'était pas une vocation depuis toute petite.
Sinon, à part ça, t'avais quand même quelques petites idées de ce que tu aurais pu faire dans ta carrière, par exemple, avant, justement ?
Bon, il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres moins, mais la question s'est pas posée comme ça. Comme je suis allée à l'université en fac de musicologie, j'avais pas tellement d'autres sources finalement que d'être prof. Alors j'aurais pu être professeur en conservatoire, mais le rapport individuel me plaisait moins. Et puis être penchée toute la journée sur un piano, ça me tentait pas plus que ça. L'avantage du métier d'enseignant en collège ou en lycée d'ailleurs, hein, et en éducation musicale, c'est que les activités sont beaucoup plus diversifiées. On écoute beaucoup de musique, on acquiert une culture générale, une culture artistique, des idées sur le contexte historique. C'est vraiment un champ beaucoup plus large que la simple technique du piano.
Pour toi, au niveau de l'enseignement, est-ce que tu tires un petit peu aussi des musiques actuelles du moment pour peut-être faire apprécier la musique aux collégiens et leur faire découvrir peut-être un peu plus en profondeur une musique en particulier ?
Ah oui, bien sûr, mais le champ est très large, hein. Oui, des musiques actuelles, beaucoup, oui, de la musique contemporaine peut-être encore plus, enfin c'est à part égale. Après, le champ d'investigation des époques est très très large, de la 6e à la 3e.
Et justement, pour toi, j'imagine que c'est important de transmettre un savoir vis-à-vis de ta matière, vis-à-vis de la musique.
Oui, bien sûr, encore que ça s'exprime plus vraiment comme ça. Le transmettre un savoir, maintenant, le savoir, on n'a plus besoin de le transmettre, hein, il est à disposition partout.
Internet
Internet, évidemment, bien sûr. YouTube, bien que les musiques soient de mauvaise qualité technique, hein, j'entends, en général, c'est souvent saturé et pas de très bonne qualité, ça permet quand même aux élèves et aux jeunes de découvrir un peu n'importe quoi. Justement, je leur donne beaucoup d'investigations à faire sur un sujet donné. Alors évidemment, à chaque fois, la question revient pour qu'ils me connaissent. Madame, est-ce qu'on a le droit de mettre des des musiques de maintenant ? À chaque fois, je dis, bien sûr, puisque on répond à une problématique, on répond à un objectif, on répond à une consigne. Justement, j'essaie depuis longtemps de faire disparaître ces clivages entre la musique qu'ils écoutent et le reste de la musique. Et souvent, moi, je leur dis, mais moi, j'aime tout, je suis pas comme vous.
D'accord.
Ça, c'est le gros sujet de plaisanterie.
Ouverture d'esprit, en quelque sorte.
Voilà.
D'accord.
Voilà. On est surtout là pour ça, leur faire acquérir une ouverture d'esprit.
Et justement, en musique, comment ça se compose, un cours de musique ?
Alors, un cours académique, entre guillemets, c'est moitié produire, moitié percevoir. Hein, à part égale dans le cours, l'un engendrant l'autre et inversement. Après le conduire, autrefois c'était plus magistral, on faisait écouter une œuvre, on faisait chanter une chanson. Maintenant c'est plus vraiment comme ça, on donne un sujet de réflexion, ils cherchent eux-mêmes. On produit toujours quelque chose qu'ils vont trouver, que des fois le prof apporte, mais pas forcément seulement. On fait aussi de la création et de la création numérique. parce que bah c'est à leur portée, c'est facile, et au collège Jacques Prévert, on a la chance d'être très très bien équipés, et puis on écoute ce que les compositeurs ont fait, souvent avec les mêmes procédés, avec les mêmes techniques, et souvent aussi aux élèves, on leur demande de faire à la manière d'un compositeur.
Et justement, tu parles de nouveaux procédés, j'entends peut-être par là les nouvelles technologies, c'est ça ?
Oh ben, les nouvelles technologies, mais les nouveaux programmes aussi.
D'accord. Te concernant, pourquoi avoir choisi finalement un collège pour enseigner et pas un lycée peut-être ?
Alors tout simplement, ça vient de la discipline. Les postes en lycée sont très très peu nombreux en éducation musicale, sinon c'est des horaires d'enseignement d'option facultative, donc c'est une heure ou deux, ça et là. Les postes les plus nombreux sont en collège. Et les postes de lycée, quand ils s'agit de sections spécialisées, c'est-à-dire le bac littéraire, ou alors les bacs techniques à Dijon, des métiers de la musique, sont réservés à des... C'est des postes à profil réservé. Donc, en général, c'est plutôt réservé à des agrégés.
D'accord. Voilà. Donc, ça dépend également du cursus, peut-être.
Ça dépend du cursus, mais ça dépend surtout du niveau de diplôme. Comme il y a très peu de postes, il doit y en avoir 3 ou 4 dans l'Académie de Dijon, des postes de lycée, véritables, hein, plein, c'est réservé aux professeurs qui ont l'agrégation.
Donc, c'est très réduit, au final.
Et puis, en plus, j'aime bien la spontanéité des collégiens. Et ça, avec les avantages et les inconvénients quelquefois, mais j'aime bien ce rapport direct et j'aime bien cette tranche d'âge aussi.
Vis-à-vis des collégiens, est-ce que tu as déjà eu des moments difficiles concernant la musique concrètement ?
Pas vraiment. Alors après, des recadrages d'élèves de temps à autre, oui, bien sûr, mais comme tout le monde. Mais des moments difficiles, non. J'en ai jamais vraiment vécu.
Et concrètement, au niveau de ta carrière, parce que ça fait quelques années, j'imagine que tu es dans l'enseignement, en tout cas de la musique ?
Oui, j'ai commencé à enseigner en 1981. Donc ça fait, je laisse faire le calcul, j'ose même plus le dire. Et puis, oui, ça fait un certain nombre d'années, oui. Et moi, non, j'ai pas de... Si, la première année où j'ai enseigné, j'avais une classe de troisième un peu difficile où il y avait des élèves âgés, parce que cette époque-là, les élèves redoublaient beaucoup, étaient réorientés, mais redoublaient beaucoup. Donc j'avais des élèves de troisième qui avaient pas loin de 18 ans. Et j'étais à peine plus vieille qu'eux. Et il a fallu jouer d'autre chose que de l'autorité, ouais. Justement. D'autre chose que de l'autorité. Mais bon, ça a pas été si difficile que ça. C'était une bonne expérience.
D'accord.
Voilà.
Donc, tu t'es forgé en quelque sorte avec cette année-là, avec ces élèves qui avaient 18 ans.
Puis moi, j'en avais 21, 22. Donc.
D'accord. Retour dans le présent. Chaque année, c'est une nouvelle rentrée, c'est des nouveaux élèves. Est-ce que tu arrives finalement à te renouveler et éviter cette routine chaque année de reprendre peut-être les choses ?
Oui. D'abord, ce serait sinon difficile. Et puis, les programmes de 2016, qui ne sont plus des nouveaux programmes, mais qui sont les derniers programmes, invitent forcément à se renouveler parce que à chaque problématique, les élèves ont une part d'autonomie qui n'est plus guidée par un cours que le prof aurait prévu comme il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, bien obligé de se renouveler de toute façon. Puis, c'est quand même mieux comme ça, parce que sinon, effectivement, non, on a un métier qui est très, très agréable de ce point de vue, parce que très enrichissante. J'apprends des choses tous les ans. Et ça, c'est rare. Dans les milieux professionnels, c'est rare.
D'accord. Et j'en parlais que la professeure d'art plastique au collège, Jacques Prévert, et elle me disait justement, la musique, l'art plastique, c'est un petit peu des matières sous-matières en quelque sorte. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça finalement ? Parce que quand on parle de matière, on pense plus au français, aux maths, à l'histoire, et la musique revient un petit peu derrière.
Oui, ça c'était autrefois. Des sous-matières, non. D'abord parce que en éducation musicale, il y a la chorale, qui depuis cette année est valorisée de 20 points au brevet comme une option, comme le latin. En plus de ça, il y a très longtemps que ces matières-là sont évaluées au contrôle continu comme d'autres matières qui ne sont pas au brevet. C'est-à-dire autant que la deuxième langue, autant que voilà. Et en plus de ça, ça apporte tellement d'autres choses, une évaluation tellement positive. Parce que pourquoi évaluer négativement un élève qui aurait fait une réalisation musicale qui ne correspondrait pas à une esthétique ? Prends un exemple. Autrefois, quand on jouait de la flûte, par exemple, il fallait que ce soit juste, il fallait que ce soit joli.
Tout à fait.
Fallait que ce soit en place, etc. Bon, mais alors évidemment, ça, après un élève qui a des difficultés, qui n'y arrive pas, qui joue pas bien juste, qui joue pas bien en place, et ben d'un seul coup, c'est dévalorisant. Maintenant, quand il faut une création qui répond à une consigne précise, mais qui est complètement libre et qui est en dehors de l'esthétique, puisqu'il peut faire une création numérique de musique contemporaine, Dieu sait si c'est pas toujours esthétique comme on l'entend en comparant avec des œuvres classiques ou romantiques. Eh bien, il peut faire quelque chose de tout à fait intéressant et de tout à fait valorisé. Et pourquoi, si la consigne est respectée, bien sûr, après, il n'y a pas de raison qu'il soit mal évalué. Et à partir de là, c'est très valorisant pour les élèves.
Ça peut être également une partie de plaisir pour eux de créer quelque chose de leur main.
Tout à fait. Et puis même si c'est pas une partie de plaisir parce que, parce qu'à ce moment-là, ça leur fera pas plaisir pour des raisons qui nous échappent, au bout du compte, il va être l'auteur de quelque chose qui peut être tout à fait respectable et entendu par quelqu'un qui comprend la démarche pédagogique et surtout la démarche musicale.
Très bien. Alors, tout à fait autre chose, on te reçoit dans le cadre des Journées mondiales de l'enseignement. Et cette année, le thème, c'est le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. En soi, ça a l'air logique comme ça, mais qu'est-ce que tu veux répondre vis-à-vis de cette formulation ?
Ah ben, elle est essentielle. Le personnel pédagogique qualifié, c'est pas seulement avoir des diplômes universitaires, encore qu'il les faut, évidemment, mais après, c'est un métier qui s'appelle. Comme n'importe quel métier, il y a des trucs, il y a des procédés facilitateurs, il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Et quand on est jeune professeur, qu'on débute, on ne sait pas tout, évidemment. C'est pas parce qu'on a le savoir encyclopédique, ou les oreilles, ou je ne sais quoi, qu'après, face à une classe, on fait ce qu'il faut au bon moment. Il faut que le professeur ait le geste pédagogique et personnel et collectif au bon moment. Et ça, la spontanéité du bon moment, c'est quelque chose qui s'acquiert bien sûr avec l'expérience, mais qui est fondamental à acquérir dès le début, de façon à pas mal vivre avec des élèves qui seraient un peu difficiles. Et en ça, les cours à l'ESP, les formations de tutorat sont fondamentales. Et elles ont lieu, évidemment. Mais à mon sens, elles sont encore pas assez développées. Elles devraient l'être plus en amont, mais je crois que c'est prévu, il me semble, par le peu que j'ai entendu par le gouvernement. Mais en plus, il faudrait qu'un accent soit mis sur l'accompagnement, non seulement quand les jeunes professeurs sont à l'université, mais en plus quand c'est leur première année de cours, comme c'est le cas en ce moment. Mais je crois aussi qu'un suivi long terme, faut peut-être pas exagérer, ça deviendrait peut-être pesant. Mais au moins l'année suivante, dans leur premier poste, avec un enseignant chevronné, connaît les lieux, il me semble que ce serait bien utile.
D'accord, parce que pour résumer en quelque sorte, ils ont la pratique, mais il leur manque un petit peu d'expérience, de pratique en quelque sorte.
Bah voilà, mais c'est comme n'importe quel métier, hein. Un boucher, on lui apprend à couper la viande. Je suis pas sûre qu'il la coupe bien dès la première année tout le temps, donc en tous les cas, il va pas la couper vite. Et puis s'il y a un client embêtant qui veut qu'il lui coupe rapidement, et puis qu'il attend, et puis qu'il s'énerve, il faut aussi que le boucher soit... Voilà, il faut qu'il sache gérer la situation. Et ben, l'exemple est peut-être mal choisi, mais je pense que dans tous les métiers, on a besoin d'un père, PAIR, expérimenté.
Pour refermer cette interview, est-ce que tu aurais une anecdote ou quelque chose finalement qu'on n'aurait pas évoqué au sein de cet entretien à nous dire ?
Alors, des anecdotes, j'en ai forcément, mais voilà... Il y en a tellement que laquelle choisir. Non, une anecdote, non, mais...
Peut-être le fait que tu gères également la chorale du collège.
Alors, la chorale, oui, la chorale de l'établissement, c'est un vrai bonheur ici, parce que elle est nombreuse, elle est facile. Elle est facile parce que les élèves sont sympas. Ils viennent spontanément, si quelque chose leur plaît pas, ils le disent aussi. Et puis on gère par rapport à ça, et dans un collège REP, la chorale ici a toujours bien marché. Depuis, ça fait 34 ans, oui, c'est ma 34e année ici, et à part la première année où j'en avais que 30, la deuxième année j'ai dû en avoir 40-50, depuis j'en ai toujours à peu près 80. Des fois plus, des fois un petit peu moins. Et ça, vraiment, c'est un vrai bonheur. Donc, c'est un vrai bonheur. J'ai vraiment beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de collèges où c'est comme ça.
Donc, les élèves sont finalement très réceptifs à la musique.
Oui, très, très. Et puis, à la sociabilisation de l'activité. Ils sont patients, ils sont très, très civils à ce moment-là. Et quand à l'époque où on parle de plus en plus d'incivilité, moi, je trouve qu'ils sont super bien.
Très bien. Parce que finalement, la musique peut avoir des atouts, justement, sur la timidité, peut-être. Et se présenter, en tout cas, chanter, peut-être, devant les autres, ça peut jouer.
Alors ça, c'est pas facile. Parce que, ils sont quand même à l'âge où on est ado. Et puis que se mettre en avant devant tout le monde, c'est pas toujours simple. Mais justement, la chorale, ils chantent ensemble. Ça, c'est bien. Alors après, oui, il y a des vocations de soliste, mais ça, je sais pas. J'allais dire les plus quelque chose, mais finalement, j'en sais rien. Est-ce que c'est les plus motivés? Est-ce que c'est ceux qui chantent le mieux? Pas sûr. Est-ce que c'est ceux qui sont le plus à l'aise? Pas sûr non plus. Il y en a qui font cet effort-là. Enfin, c'est un dépassement de soi et puis c'est une belle leçon de vie avec les autres.
Très bien. Et finalement, pour rejoindre la chorale, est-ce qu'il faut forcément être bon chanteur et chanter juste?
Ça, non, aucun. Enfin, moi, j'ai aucun prérequis. On n'est pas une maîtrise, donc une chorale très spécialisée. Et puis après, c'est mon travail à moi de les faire chanter juste.
Très bien. Eh bien, merci Marie-Christine.
Et bah, c'était avec plaisir.
À savoir que cette journée mondiale des enseignants 2018 marque également le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme datant de 1948. Elle inscrit l'éducation parmi les droits fondamentaux et proclame le droit à un enseignement gratuit et obligatoire avec un accès équitable et inclusif à l'éducation pour tous les enfants. Voilà, très bonne journée sur les ondes de Radio Prévert 105.9. C'était Portrait de Prof sur Radio Prévert 105.9, la radio qui vous change d'univers.